Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Alors vous le savez, maintenant on a un objectif, chaque semaine vous redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes. On sait bien que manger c'est hyper important pour notre santé et puis c'est très français la gastronomie. Mais on va voir tous les trucs et astuces pour mieux manger sans se ruiner. Bonjour Marie-Laure Fréchet.
Bonjour Valère.
Vous êtes journaliste culinaire et on a une première question pour vous d'une auditrice.
Bonjour, je m'appelle Apolline, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Rouen. Ayant un budget assez serré, je voulais savoir si c'était vraiment intéressant d'acheter des produits avec des Nutri-Score entre A et B ou si c'est juste du marketing. Voilà, merci beaucoup.
Marie-Laure Fréchet, le Nutri-Score avec ses lettres là de A à E, c'est un repère pour le pouvoir d'achat ?
Absolument pas, ça n'a rien à voir avec le prix. C'est un indice nutritionnel qui mesure en fait la composition des aliments, les glucides, les lipides. Alors il faut savoir que c'est un indice qui est un peu controversé parce qu'en fait il ne dit pas grand-chose sur le côté bonne santé de l'aliment. Par exemple, il ne donne pas le degré de transformation de l'aliment.
Et ça c'est important évidemment pour la santé,
sûr,
quand
exactement.
C'est très transformé. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors Marie-Laure Fréchet, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour faire ses courses ? Se balader dans les rayons d'un supermarché ou plutôt commander en ligne pour se faire livrer ou encore récupérer ses courses au drive ? Donc d'un côté on y va un peu et puis on improvise d'une certaine façon ou de l'autre on a le temps, on est à la maison, on regarde tranquillement.
Alors, le supermarché, c'est un peu l'île de la tentation. C'est difficile de ne pas sortir avec autre chose que ce qui se trouve sur sa liste de courses. Mmh. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, si on veut vraiment serrer son budget, le commander en ligne. Alors, après, l'inconvénient, c'est qu'en ligne, on ne voit pas la qualité des produits, notamment des fruits et légumes.
Ah oui, donc on va commander et parfois on a des mauvaises surprises. C'est vrai que parfois j'ai eu des kiwis notamment et c'était un peu mou. Moi j'aime bien quand ils sont bien fermes. Dites-moi, si on vient avec une liste et qu'on s'y tient, là ça marche. Mais ce que vous dites, c'est qu'on s'y tient pas toujours, quoi.
Ouais. Bah non, évidemment, c'est comme je disais, il y a tellement de tentations. Pourquoi ne pas essayer ce nouveau yaourt, cette nouvelle marque de biscuits, bien sûr.
On va aussi voir certaines promos quand on est sur place qu'on ne voit pas en ligne. Ça peut être un bon plan en revanche.
C'est vrai, mais du coup on achète plus.
Les marques distributeurs. Alors là, est-ce que c'est une bonne piste pour trouver de la qualité pas trop cher?
Oui, parce que sur les marques distributeurs, notamment en entrée de gamme, on est souvent à moins 20, moins 50%. Donc ça, c'est intéressant. Et notamment, finalement, pour les produits de base, les pâtes, le riz, les confitures, les condiments, oui, c'est un bon plan.
Mais est-ce que c'est vrai que les marques distributeurs, c'est parfois fait par les mêmes usines que des marques plus connues et donc on se retrouve avec les mêmes produits dedans ? Ça, c'est une légende urbaine ou ça existe ?
Je n'ai pas cette info, donc je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas sûre.
Moi, je pense que ça existe quand même.
Je pense que ça existe, mais voilà, c'est...
Ok. Non, mais il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Il y a des rayons vrac dans les supermarchés classiques maintenant. Et puis, il y en a pas mal aussi des rayons vrac dans les anciennes bio, là, avec parfois des distributeurs, les petits sachets, etc. Est-ce que c'est un bon plan, ça, pour le pouvoir d'achat ?
Alors, c'est sûr que l'emballage contribue au prix du produit entre 3 et 30% suivant le type d'aliment.
Ah oui,
donc c'est quand
énorme.
Même très important. Donc oui, le vrac, ça peut être intéressant. Pour tout ce qui est épicerie sucrée, par exemple, si vous achetez des noisettes, des choses comme ça, ça c'est intéressant parce que c'est aussi le bon plan, c'est aussi d'acheter la juste quantité. Pardon, on a tendance à gaspiller en fait ce type de produit, on a tous des petits fonds de raisins secs, etc. Le vrac permet aussi d'acheter de façon mesurée.
On dit aussi parfois que les emballages, ça permet de conserver les aliments. Donc là, il n'y a pas d'emballage. Ça veut dire qu'il faut voir comment on va les ranger à la maison et faire attention à ce qu'ils prennent pas trop l'air, etc.
Voilà, donc effectivement, donc la contrepartie, c'est qu'il faut venir avec son emballage, de préférence une boîte hermétique en verre, c'est la meilleure solution. Voilà, c'est nécessaire, notamment, c'est ce qu'on reproche souvent au vrac pour le problème des mythes alimentaires.
Tout à l'heure, vous nous disiez, attention, quand on va au supermarché, on peut être tenté, on va parfois acheter plus. Ça m'a fait penser, vous savez, au pack famille, les grosses promos, quand on achète des gros paquets. Et là, j'ai lu aussi que parfois, le prix, en réalité, était moins intéressant que quand on en achetait des plus petits. Comment on fait pour se repérer ?
Effectivement, le truc, c'est toujours de bien regarder le prix au kilo ou le prix au litre. Ce n'est pas forcément plus intéressant. Il se peut aussi que le distributeur cherche à vous refourguer son lot peut-être d'un vendu ou d'un produit qui part un peu plus difficilement. Donc toujours regarder le prix au kilo, un peu comme pour les lessives, par exemple la lessive ou les tablettes de la vaisselle. On regarde toujours le prix au kilo.
Ah oui, c'est pas mal. Et puis quand on achète un format familial, il faut penser, est-ce qu'on va le consommer aussi derrière ? Parce qu'il y a le gaspillage, on va en parler.
Voilà aussi, parce que qui dit grand format format dit stockage aussi déjà, donc dans une cuisine pas très grande, qu'est-ce qu'on fait de tous ces paquets? Et puis aussi, ben voilà, combien de temps ça se garde? On regarde aussi la date de péremption.
Aujourd'hui, Marie-Laure, notre mission, c'est d'essayer d'aider celles et ceux qui nous écoutent à mieux manger, à mieux s'alimenter en dépensant le moins possible. On est toujours au supermarché. J'ai constaté qu'il y avait des rayons anti-gaspille, souvent on les appelle comme ça, avec des produits en date courte, c'est-à-dire des produits qui seront plus comestibles assez rapidement, mais qui sont encore bons. Est-ce que ça, c'est un bon plan ?
Oui, c'est un bon plan si on les consomme rapidement, donc c'est-à-dire le jour même ou le lendemain. Souvent, de toute façon, toujours regarder la date de péremption. C'est bien aussi pour les fruits et légumes, par exemple pour faire une soupe ou des compotes. Voilà, il ne faut pas hésiter à acheter ce type de produit.
Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler la différence entre date limite de consommation et date de durabilité minimale? Parce qu'il y a ces deux balises et parfois on se mélange un peu les pinceaux et là, pour le coup aussi, on peut perdre des sous.
Donc la date de consommation, bah comme son nom l'indique, c'est la date au-delà duquel on ne peut plus consommer cet aliment. Et la date de durabilité optimale, en fait, c'est la date à partir de laquelle, en fait, finalement, ce qu'on appelle les qualités organoleptiques, donc la saveur, la couleur, la fraîcheur du produit, va lentement se détériorer, mais le produit est encore complètement consommable.
Une fois, j'avais discuté avec la fondatrice de Too Good To Go, l'application, il me semble que c'était elle, et elle me disait, il faut aussi se faire confiance, toucher, sentir, regarder les aliments bah, pour voir s'ils sont encore bons ou pas. On peut se faire confiance à l'intuition.
Bien sûr, c'est le cas des yaourts, par exemple, dont la date de, là pour le coup, péremption, au-delà de cette date, le yaourt est encore consommable.
Ah, ça c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Quoi, une semaine,
ou au moins une bonne semaine, oui, on peut le goûter, et voilà, et tant que son goût est agréable, il n'y a pas de souci.
Une dernière question pour le supermarché, est-ce que les enseignes discount, hard discount, est-ce qu'on y trouve aussi de la qualité? Parce que c'est vrai que c'est moins cher, mais est-ce que ça vaut le coup côté qualité?
Sur des produits basiques, encore une fois, je ne sais pas, moi, le sucre, la confiture, les conserves, il n'y a pas de souci, voilà, c'est les mêmes produits que dans la grande distribution.
Donc c'est un bon plan pouvoir d'achat pour le coup.
Bien sûr, c'est un bon plan.
On adore les marchés de plein vent en France. Il y en a plein, parfois plusieurs fois par semaine, dans son village, sa ville, son arrondissement. C'est un bon plan ?
Oui et non, voilà, pas forcément.
Ah, je pensais que c'était vachement bien, pourquoi ?
Alors, déjà sur les fruits et légumes, si vous les achetez à un revendeur, finalement, c'est comme si vous les achetez chez un primeur. Vous aurez tendance à trouver les mêmes prix qu'un primeur en ville. Ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter en direct du producteur. Il n'y a pas tant de marchés où on trouve des producteurs qui viennent vendre leurs productions.
Comment on les reconnaît entre l'un et l'autre ?
En leur posant la question, tout simplement. Enfin, souvent, ils ont leur enseigne.
En direct du jardin.
Voilà, on les repère quand même. Alors, le prix n'est pas forcément moindre. Parfois, oui. Mais par contre, on a la garantie que quasiment l'intégralité du prix va revenir au producteur. Donc ça, c'est intéressant. Puis dernière chose, attention aux stands un peu touristiques, les miels de pays, les saucissons, je ne sais quoi, le fromage de Savoie, où là, parfois, c'est un peu des attrapes gogo.
Des attrapes touristes, et ce n'est pas forcément évident en plus de s'y retrouver. Donc on pose la question, il faut poser la question.
Exactement, le marché, c'est ça, c'est qu'il faut discuter avec les commerçants.
Et puis on peut aussi aller chez les producteurs qui font de la vente en direct. Là, c'est intéressant
sur
le plan de la qualité, mais aussi du prix parfois.
Oui, du prix, c'est du prix, et puis un circuit court, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant.
Bonjour Léon.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre. Alors, vous avez partagé, Léon, avec nous une lettre que vous avez envoyée à un producteur de pommes de terre pour lui demander l'autorisation de glaner, c'est bien ça ?
Plus exactement, pour l'informer que j'allais sur son terrain pour faire du glanage.
Vous avez raison, Léon, de bien préciser ça, parce que pas vraiment besoin de demander une autorisation. Et donc, vous lui avez écrit pour le prévenir. Il vous a répondu ?
Oui, oui, mais je suis allé chez lui. Je suis né à Bayeux il y a plus de 80 ans. Et puis, pour des raisons professionnelles, je suis allé dans une région où le glanage était une habitude, voire même une organisation avec les organisations caritatives qui organisaient des glanages.
Et Léon, juste, on rappelle, le glanage, c'est le fait de passer après récolte et d'aller ramasser des produits qui, de toute façon, vont être perdus. Et c'est une coutume tout à fait autorisée, encadrée, mais légale.
Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça, exactement. Et je ne voulais pas être en porte-à-faux. Alors, j'ai recherché sur Google, j'ai cliqué sur glanage législation et j'ai eu les éléments recherchés. Alors j'en ai fait une lettre que j'aurais mis aux producteurs de pommes de terre et après sa récolte.
Et votre lettre, elle est touchante et elle est magnifique parce que vous commencez en citant, je ne sais plus quel est dit, royal, et puis ensuite vous descendez comme ça les différentes réglementations pour bien poser les règles.
Hein. C'est ça. Hein. Alors, la lettre que j'ai remise au producteur, je lui disais bonjour. Objet, c'était mon glanage de pommes de terre. Et vu l'édit du roi Henri II du 2 novembre 1554, c'est pas d'aujourd'hui, hein, toujours en vigueur car non abrogé, vu la loi du 2 juillet 1888, et vu l'arrêté du 17 septembre 1997, et vu la question écrite de 99 384 posée au gouvernement, et la réponse au journal officiel du 13 juin 2017. Donc avec tout ça, j'envisage de glaner des pommes de terre sur votre terrain situé à l'endroit où c'est possible.
Et vous avez pu glaner tranquillement, donc récupérer des pommes de terre gratuites, très bonnes, et ça arrange tout le monde à la fin.
Voilà. Alors j'ai respecté les clauses. Il fallait que ce soit un terrain non clôturé, que ce soit après la récolte, et entre le lever et le coucher du soleil, sans outils, et la quantité limitée à la consommation familiale.
Ah oui, ce sont toutes les règles du glanage, hein, vous avez bien tout rappelé.
Et je précisais que j'acceptais un refus de sa part s'il était dûment justifié. Parce que si c'est pour dire « je veux personne sur mon terrain », c'était pas valable.
Voilà, un bon plan donc, qui est peut-être assez peu connu, non, Marie-Laure Fréchet? Vous êtes journaliste culinaire, le glanage, on connaît pas trop, hein?
Oui, enfin, on connaît dans le nord de la France d'où je viens, puisqu'on est une terre de patates. Donc, effectivement, c'est comme le rappelle Léon, c'est une pratique ancestrale et autorisée, moyennant quelques règles.
Voilà, quelques règles que Léon a parfaitement rappelées.
Parfaitement résumé.
Et il faut juste rappeler, il ne faut pas qu'il y ait un arrêté municipal, par exemple, qui l'interdise. Alors, en plus, Marie-Laure, vous connaissez bien la patate ou les pommes de terre. Deux livres là-dessus, vous les avez publiés. Ma frite adorée, c'est chez Marabout. Et puis, le grand livre des patates aux éditions Flammarion. J'en profite pour vous rappeler, chères auditrices, auditeurs d'ici, on est là pour vous aider. Hein. On a un mail si vous voulez participer à une émission, nous proposer un sujet, réagir. Par ici, leséconomies@radiofrance.com. On va maintenant cuisiner avec vous, Marie-Laure. Les fruits et légumes de saison, c'est moins cher?
Alors oui, c'est moins cher parce que en saison, les fruits et les légumes arrivent en abondance sur le marché. Le côté local est intéressant aussi puisque moins de transport. Mmh. Attention quand même en grande distribution puisque la grande distribution a tendance à lisser les prix avec des fruits et légumes qui viennent de pays où ils sont produits à bas coût comme le Maroc ou l'Espagne.
Mais c'est pas la même qualité.
C'est pas la même qualité.
Et on est d'accord.
Souvent pas la bonne saison.
On a besoin d'y revoir clair aussi là-dessus puisqu'aujourd'hui le but, c'est de redonner du pouvoir d'achat tout en mangeant le plus sainement possible. Est-ce que le fait de réduire la viande au quotidien, ça a un impact notamment sur le budget? On sait que sur la santé, il ne faut pas trop en manger.
Voilà, j'allais dire, ça a d'abord un impact sur la santé. Hein. C'est des recommandations de l'OMS d'en manger deux ou trois fois par semaine, une fois de la viande rouge et deux à trois fois de la viande blanche. Alors oui, ça a une vraie incidence puisque la viande représente à peu près 25% du budget alimentation.
Ah oui, ouais, c'est beaucoup.
Donc ça, c'est beaucoup. Donc effectivement, si on suit une voie, ce qu'on appelle flexitarien, donc c'est-à-dire de
moins manger de viande,
beaucoup moins, ça représente quand même une économie de 450 € par an et par personne. Donc c'est quand même
c'est pas rien. On est d'accord.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
En version magazine, le samedi, le thème aujourd'hui, bien manger sans se ruiner. Marie-Laure Fréchet, vous êtes journaliste culinaire et avec nous pour nous apporter tous vos éclairages. Et puis Johanna Varlet, directrice de la communication chez Phoenix, nous a rejoint. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est Phoenix?
Alors, Phoenix, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014, donc il y a déjà 11 ans maintenant, avec comme objectif assez ambitieux de réduire le gaspillage en France et puis plus largement en Europe. Donc concrètement, en fait, pour y parvenir, on aide les distributeurs, les industriels, mais aussi les commerces de quartier et de bouche à réduire, piloter et puis revaloriser ce qu'ils ne peuvent pas écouler. Donc ça va passer par exemple par des bacs anti-gaspillage installés en magasin que vous voyez très certainement en faisant vos courses. Ça va passer par du don à l'une de nos 3000 associations partenaires. Et ce qui vous intéresse, je pense, plus particulièrement aujourd'hui, ça va aussi passer par les paniers anti-gaspillage.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Johanna, vous avez dit ce que vous vouliez dire. Vous êtes directrice de la com, on vous en veut pas, c'est normal. Mais nous, voilà. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien manger.
Imagine.
Et pas trop cher. Alors comment on fait avec vous?
Alors, ben, nous, on propose aussi, donc en plus de ce que je vous ai dit, des paniers anti-gaspi à petit prix qui sont disponibles chaque jour sur l'application Phoenix et qui permettent à tout consommateur, tout client, d'accéder du coup à de l'alimentaire et du non-alimentaire moins cher.
Ah, alimentaire et non-alimentaire, donc on trouve aussi quoi d'autre à part des aliments ?
Ouais, tout à fait. Alors, il y a en majorité effectivement de l'alimentaire, mais on peut trouver par exemple des plantes, on peut trouver des produits de beauté, des cosmétiques pour femmes, hommes, enfants, voilà.
Ah, c'est bien, je savais pas.
C'est juste de l'alimentaire.
Ouais. Donc c'est Phoenix, P-H-E-N-I-X, hein, Phoenix comme le phénix concrètement. Au niveau des prix, c'est vraiment moins cher ?
Alors, nous, on a à cœur les intérêts des commerçants d'un côté, mais des consommateurs aussi de l'autre. Donc, en fait, on n'impose pas de réduction. Le commerçant peut choisir, mais ça sera toujours à partir de moins 40%, ce qui reste quand même très avantageux.
Ah bah oui. Ouais.
Donc, pour idée, on a mesuré, par exemple, les gains de pouvoir d'achat pour les citoyens via notre application. Et on parle de 14,3 millions d'euros économisés en 2024. Donc, c'est quand même assez conséquent.
Oui, à l'échelle de tout le monde. Mais bon, pour une personne, on a ce repère au moins 40% de réduction. Et donc, on peut faire nos courses comme on les ferait dans un magasin, sauf qu'on passe par votre application. J'ai bien compris l'idée, hein ?
Oui, absolument, c'est ça.
Et tout est expliqué sur le site wearephoenix.com. Alors, vous téléchargez sur votre store l'application si vous êtes intéressé par Phoenix. Il y en a bien sûr d'autres, hein, Too Good To Go, pour ne pas les nommer, qui sont hyper connus aussi. Merci en tout cas, Johanna Varlet, vous êtes directrice de la communication chez Phoenix. Marie-Laure Fréchet, rapidement, cuisiner, c'est bien, mais cuisiner en grande quantité et congeler, c'est mieux. C'est vrai ?
Oui, congeler ou remanger le lendemain un plat, une sorte de plat unique qu'on aura fait, parce qu'en fait, on mutualise un certain nombre de choses, les condiments, l'énergie, la cuisson. Donc oui, c'est un bon plan. Plutôt que cuisiner pour deux, cuisiner pour quatre ou six et faites des portions pour le lendemain ou pour le week-end.
Et ces applications anti-gaspi, vous les recommandez ? C'est vrai que c'est pas mal. On clique, on réserve un panier, parfois un peu surprise, mais on sait grosso modo ce qu'il va y avoir dedans. Et il y a des belles réductions.
Il y a des belles réductions, oui, c'est intéressant, effectivement, pour chez les boulangers, par exemple, voilà, parce que le pain se congèle très bien. Donc on peut aller récupérer comme ça le soir quelques pains et les congeler.
Marie-Laure Fréchet, vous êtes journaliste culinaire. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz pour qu'on finisse avec les idées bien claires, parce que c'est hyper important de bien manger et c'est encore mieux quand on ne se ruine pas pour acheter de bons aliments. Alors, première question, bien manger sans se ruiner à la fin de cette émission, mission impossible ou pas ?
Non, pas du tout. Alors, ça demande un petit peu d'organisation, peut-être un petit peu de temps aussi pour comparer les prix, mais c'est tout à fait réalisable, bien sûr.
Les tomates l'hiver, quand elles viennent d'Espagne, c'est pas cher, donc ça vaut le coup, on peut en manger toute l'année.
C'est pas bon surtout, non ? Non, non, très mauvaise idée. Les tomates, c'est en saison et nos producteurs en France en font des très bonnes.
Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les produits de saison, c'est aussi un bon plan côté budget, hein, pas
exactement,
que côté qualité.
Voilà.
Bon. Les produits à date courte sont moins bons que les autres parce qu'ils sont bientôt périmés.
Pas forcément, si on les mange dans la limite de la date, pas de souci.
Manger de la viande à chaque repas, c'est pas une question de budget.
Non, c'est une question de santé avant tout, donc ne mangez pas de la viande trop souvent. Et puis effectivement, ça permet de réduire son budget.
Oui, vous nous rappelez les chiffres rapidement sur la viande, combien ça représente dans un budget alimentation ?
25%, donc la bonne idée, c'est de la viande rouge une fois par semaine, viande blanche deux à trois fois maximum.
Le vrac, c'est un truc de Parisien ?
Pas du tout, c'est un bon plan, c'est pratique, c'est anti-gaspi et c'est moins cher.
Le bio, par contre, c'est toujours plus cher.
Oui et non, donc en moyenne c'est 15% plus cher, mais ça a tendance à se lisser sur certains produits non transformés, les pommes de terre et le vrac aussi.
Merci en tout cas, merci beaucoup Marie-Laure Fréchet pour tous vos éclairages. J'espère que vous qui nous avez écoutés, vous y voyez aussi plus clair pour mieux manger sans se ruiner, pour écouter toute l'émission, la partager avec vos proches et puis les faire profiter de cette mine d'infos pratiques. Là pour le coup, au service de notre pouvoir d'achat, on peut le dire, c'est sur ici. La semaine prochaine, on va tout vous dire pour réparer sans se ruiner et surtout en faisant de belles économies.